En Bouche-du-Maine, sur 93,8.
Toujours dans la recherche des pistes de solutions, de la relance des activités de la minière de Bakwanga, Miba en sigle, le gouvernement congolais se bat bec ongle pour y arriver en signant des protocoles avec des entreprises étrangères. Aujourd'hui, c'est autour de deux entreprises, deux banques pardon, publiques sud-africaines. Nous allons parler avec notre confrère Ella Meji, qui s'est penché d'ailleurs sur la question, Emmanuel, pour savoir un peu plus quelles sont les conditions de ce protocole d'accord. Thierry, vous êtes avec nous? Pardon, Emmanuel, vous êtes avec nous?
Je suis avec nous, JR, je suis avec vous. Bonjour, bonjour à tous.
Alors, avant toute chose, dites-nous, qu'est-ce qui a amené la société minière de Bakwanga à en arriver à la signature de cet accord?
D'abord, JR, rappelons que la mission primordiale de la MIBA reste l'exploitation des diamants et cette entreprise dispose de plus de 5000 employés au pays comme à l'étranger. À chaque pays normal, ici, la MIBA a déversé près de 2 500 000 dollars américains sur le marché de Mbujimayi. C'est la MIBA seule qui détient une centrale électrique pour ses installations ainsi que pour l'éclairage de la ville de Mbujimayi. Mais depuis vers les années 2005, une crise s'est annoncée à la MIBA. La production avait constamment baissé. Conséquences, des longs mois de non-paiement des salaires ont été observés et ça a suivi la colère des travailleurs qui ont déclenché la grève. Un nouveau comité de gestion avait été mis sur pied avec comme mission remettre les gens au travail et relancer ainsi la société. C'est là que les démarches d'emprunt ont commencé. D'abord, l'année dernière, en 2007, il y a eu un emprunt de près de 11 millions de dollars américains chez Rawbank à Kinshasa. Ce qui était d'ailleurs insuffisant cette fois-là, et plusieurs délégations de la Chine et de la Corée du Sud de l'Asie sont venues ici en Bujumaï pour des éventuels partenariats dans des prêts, ce qui n'a pas abouti jusqu'à ce jour, et voilà pourquoi on s'est rabattu sur la piste des firmes sud-africaines, ce qui a conduit à l'accord de la semaine dernière.
Voilà, alors après plus d'une année de démarches pour obtenir le financement, la MIBA a enfin signé un accord de prêt. Sur quoi porte concrètement ce prêt?
Concrètement, il s'agit d'un accord de prêt à long terme que la MIBA a obtenu de firmes sud-africaines et les modalités de remboursement de ce fonds sont clairement définies dans cet accord. Madame Christine Toussé est l'administrateur déléguée générale adjointe de la MIBA, elle nous explique.
L'accord porte sur un emprunt de 120 millions de dollars avec une durée de remboursement qui est de durée totale, si vous voulez, c'est 8 ans, délai de grâce 2 ans, les taux d'intérêt c'est 3,84% et un taux fixe qui sera fixe donc pendant toute la durée du prêt, 3,84%, donc nous estimons que les conditions sont avantageuses.
Voilà, alors comment cela sera-t-il possible? Quelle sera la part du gouvernement central?
Le gouvernement central, à travers le ministère du portefeuille, affirme avoir déjà tout fait pour la MIBA, celle qui a amené la MIBA à de tels contrats, mais quitte maintenant à cette dernière, à la MIBA, de remplir donc les conditions posées pour passer au concret. On écoute Madame la ministre du portefeuille.
C'est à la MIBA de travailler sur cette question, c'est qu'une banque donne un accord de crédit et signe un contrat de prêt. Dans ce contrat de prêt, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et ces conditions, c'est la MIBA seule qui peut les remplir. C'est à la MIBA de prouver qu'elle est propriétaire de son site minier. C'est à la MIBA de prouver qu'elle a un système de gestion et de gouvernance qui est collégial, collectif et transparent. Je dirais que presque 60% des conditions demandées par le banquier ont été remplies et le reste, ce sont peut-être des retards liés à l'administration. Sur ces questions-là. Maintenant, la balle est dans le camp de la MIBA. Le plus vite on remplit toutes les conditions qui restent encore et qui ne sont pas très nombreuses, le plus vite on passe à la phase de décaissement. Et donc, c'est par étapes qu'on avance. Les décaissements se font aussi par étapes.
Alors, quelles sont les conditions déjà remplies et celles qui restent?
Au total, il y en avait 14 conditions qui étaient posées à la MIBA par les fournisseurs. Madame la DGA indique que l'essentiel est déjà fait. Il ne reste plus que quelques formalités à remplir d'ici la fin du mois de septembre pour obtenir le décaissement. Encore une fois, on écoute Christine Toussé.
Je peux vous citer quelques-unes des conditions. On devait remettre des titres valides. On a validé nos titres. On devait nous engager sur un programme pour préserver l'environnement. C'est fait. Nous avons présenté une étude d'impact environnemental qui a été donc approuvée par le ministère de l'Environnement. Et il fallait créer un département indépendant au sein de l'AMIBA pour gérer l'environnement, c'est fait. Donc, ce qui reste à faire, il y a d'abord la confirmation de tous les efforts que l'État a fait en faveur de l'AMIBA. Et il y a un auditeur indépendant, KPMG, qui effectue la certification pour le moment. Mais ça fait partie des conditions suspensives pour les décaissements des crédits. Au maximum, 14 jours, on aura certifié. Il n'y a pas que ça. Il y a la certification des ressources de l'AMIBA, la quantité des minéraux, l'étude est en cours. Nous attendons les rapports provisoires avant fin septembre.
Voilà, il y a beaucoup de conditions qui restent encore à remplir et plus de 100 millions de dollars américains pour l'AMIBA aujourd'hui. Ce n'est pas un peu. À quoi cela sera-t-il affecté prioritairement?
Les autorités de l'AMIBA pensent privilégier d'abord le matériel de travail qui, une fois remis en place, augmentera donc la production et déclenchera le processus de l'appuiement des arriérés. Aujourd'hui, il y aura plus de 15 mois d'arriérés de salaire à l'AMIBA. Mais plus de détails, je pense que ça sera tout à l'heure hein, avec l'invité qui n'est autre que Madame la DGA de l'AMIBA, Christine Soussé, sur à quoi ça sera affecté effectivement cet argent.
Et que pensent les travailleurs de l'AMIBA de cette signature?
Nous avons posé la question aux délégués syndicaux de l'AMIBA. Ils espèrent, eux, ils ont l'espoir en tout ce qui peut sauver l'entreprise aujourd'hui. Mais on aura aussi tous les détails avec le deuxième invité, qui est le vice-président de la délégation générale syndicale de l'AMIBA, Dieudonné Kabamba Mutyaba, tout à l'heure.
Merci beaucoup, Emmanuel et la Mégie, et à la prochaine.
Merci, Gérard.
Okapi, Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle, avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français. Okapi.
Christine Toussé, vous êtes la DGA de l'AMIBA, vous êtes avec nous, ben voilà, donc on va, nous allons tenter à nouveau de mettre la main sur la DGA de l'AMIBA, Madame Christine Toussé, qui nous apportera quelques éclairages autour de quelques interrogations, notamment à savoir concrètement c'est quel type de matériel de travail que disons, l'AMIBA va privilégier en premier, et la seconde priorité après le matériel, c'est laquelle? Avec est-ce qu'ils ont l'électricité suffisante pour faire fonctionner toutes ces machines? Vivre le premier fruit de ce prêt, de cet accord? Et si l'AMIBA ne serait pas capable ou prête de rembourser dans les délais de 8 mois, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Autant de questions, mais la plus grande interrogation, c'est celle de savoir, bien avant ces prêts, on sait que l'AMIBA avait produit quand même, et dernièrement, elle a vendu deux fois plus les diamants au Tender. À quoi cela a-t-il servi? Vous avez sans doute d'autres interrogations et d'autres préoccupations. N'hésitez pas à nous en faire part à nos deux moyens de contact, au travers de nos deux moyens de contact, à savoir le 081 070 2050 ainsi que le 081 890 63 94 pour nous appeler directement. Et comme on a toujours l'habitude de le dire, ne nous bipez pas, appelez-nous, nous avons la possibilité de vous rappeler pour recueillir votre contribution au travers de cette réflexion.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous avons en ligne notre invité, Christine Toussé, ADGA de l'AMIBA. Nous aurons également un deuxième invité, Dieudonné Kabamba, vice-président de la délégation syndicale. Madame Christine, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis avec vous en ligne, bonjour.
Alors, vous avez bénéficié d'un prêt, la première préoccupation de notre émission, et c'est la même préoccupation des auditeurs. Comment allez-vous affecter ce prêt?
Bon, on a bénéficié. Bon, comme on l'a déjà eu à le dire à plusieurs reprises, hein, c'est un prêt qui va servir à financer les besoins des investisseurs. Okay. La capacité, de la production de l'entreprise qui, comme vous le savez, était tombée à un niveau trop bas. Donc, actuellement, nous sommes à plus ou moins 5 000 carats par jour, contre 20 000 en période normale. Donc, il s'agit d'un prêt pour satisfaire les besoins des investissements. Et donc, il est question, vous connaissez aussi l'état de notre outil de production qui se trouve donc dans la que si vous voulez prononcer, et dont les rendements est actuellement en dessous des. Donc, il est question de réhabiliter l'outil de production. Donc, dans cette. La réhabilitation de l'outil de production comprend les engins miniers, les engins de forage, les engins divers, les camions, les véhicules, et aussi la réhabilitation donc, du secteur de l'environnement, comme vous le savez, donc, joue un rôle aussi déterminant en fait, dans la production de la mine.
Et concrètement, c'est quel type d'outil de travail que vous privilégierez, vous allez privilégier en premier?
Bon, en premier, bon, on va d'abord commencer par les secteurs de l'énergie, hein, parce que si on réhabilite, enfin, si nous commençons par les traitements et qu'au niveau de l'énergie, on n'a pas une mise à disposition donc suffisante donc de l'énergie, on ne pourra pas faire fonctionner donc les unités de traitement. Donc la priorité, ça va d'abord ça commence par l'énergie. Et donc, après l'énergie, donc il y aura les équipements miniers. Après les équipements miniers, les unités de traitement. Donc, il est prévu aussi d'accorder donc priorité à la réhabilitation de l'environnement.
Et la seconde priorité après le matériel ou l'outil, c'est laquelle?
Allô?
La seconde priorité après le matériel, c'est laquelle? Avez-vous de l'électricité suffisante pour faire fonctionner toutes ces machines?
Mais ça fait partie de la réhabilitation. Donc le secteur énergie fait partie de la réhabilitation de l'outil de production. C'est ce que je vous disais, c'est d'abord l'énergie qui est la priorité. On commence donc, la priorité numéro un, donc, sera la réhabilitation du secteur de l'énergie pour nous permettre une mise à disposition suffisante, donc, du courant.
Alors, c'est un prêt à long terme. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous faire une idée exacte sur la durée? C'est de 7 ans, 8 ans, 9 ans?
La durée de l'emprunt, elle est de 8 ans. Elle est de 8 ans. Bon, il faut considérer que dans les 8 ans, il y a 2 ans de délai de grâce. Et donc, pendant lequel, on n'effectue aucun paiement, ni des intérêts, ni des principales. La durée de remboursement est de 6 ans. Donc, à partir de la troisième année.
Alors, quel est le taux d'annuité de cet emprunt?
C'est allô?
Le taux d'annuité de cet emprunt.
Allô?
Allô, madame Toussaint, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux d'annuité? Parce que vous avez dit qu'il y a un délai de grâce, mais quand vous allez commencer à rembourser, quel sera le taux d'annuité?
Pour le moment, enfin, nous attendons à qu'on nous transmette donc les tableaux d'amortissement, donc les taux d'annuité vont se calculer en fonction du délai de remboursement, hein, qui est décidant.
Oui, mais donc on se pose la question, vous avez signé un protocole d'accord sans savoir le taux d'annuité et d'emprunt, mais si jamais ce taux était vraiment supérieur à ce que vous attendez. Voilà, nous avons un problème de communication, la communication n'est pas fluide, d'ailleurs c'est une question très pertinente.
Non, ça ne s'est pas passé de la sorte, il y a des études, donc le montant de l'emprunt d'abord a été déterminé sur base des études et techniques financières. Et comme vous le savez, bon, les organismes de financement n'accordent pas de prêts, donc dès qu'ils ne sont pas assurés de la capacité donc, du remboursement, il y a un modèle financier qui a été élaboré, et ce modèle financier donc a été élaboré, vérifié, approuvé par les prêteurs, et il a démontré la capacité de à rembourser l'emprunt à partir de la troisième année. C'est ainsi que les délais de prêt est de 2 ans. Oui. Et les délais de grâce est de 2 ans.
C'est de 2 ans, donc il vous restera 6 ans, avant que vous commenciez à rembourser. Mais le problème au niveau de la population, c'est qu'il y a quand même un standard autour des taux d'annuité qui est acceptable à tous. Il ne faudrait pas que cela aille au-delà de ce qui est exigé.
Bon, ça, je ne comprends pas bien la question. Que quoi soit au-delà de ce qui est exigé?
Le taux d'annuité.
Mais non, je vous dis que toi a été étudié, donc on tient compte. Bon, il y a eu un modèle financier, les modèles financiers qui comprenaient, si vous voulez, une planification de la production. Ce modèle financier aussi, donc, comprenait aussi la planification des recettes associées aux prévisions de production. Et puis, on a déduit tout ce qui était comme charge dans les charges, donc on pense, on tient compte de toutes les charges, les coûts opératoires, les charges administratives, les charges du personnel, et puis finalement, on a dégagé un cash flow.
Oui. Alors, à quand pourra-t-on attendre vivre le premier fruit de ce prêt, le prêt de cet accord?
Bon, comme vous le savez, à la matière, hein, ce type de prêt, il y a d'abord une date d'ouverture. Bon, la date de signature ne correspond pas à la date de décaissement. Bon, dans tous ces types de prêts, ce n'est pas un cas singulier pour donc les prêts issus d'Africains ici. Donc, c'est une pratique à la matière. Donc, il y a une date de mise en vigueur. Donc, il y a une certaine période entre la date de signature et la date de mise en vigueur. C'est pour permettre donc la mise en place de tous les instruments nécessaires qui doivent permettre les décaissements du crédit. Alors, en ce qui nous concerne, nous espérons que cette période sera la plus courte que possible dans la mesure où nous avons négocié les prêts en moins d'une année. C'est un prêt qui porte sur un montant important de 140 millions. Bon, en règle générale, bon, les négociations prennent plus d'une année, parfois même jusqu'à 3 ans. Ici, nous considérons avoir négocié les prêts en un temps record de 1 an, donc il n'y a pas de raison pour que les décaissements n'interviennent pas rapidement.
Oui, ben alors une question plus simple que ça, qu'est-ce que les travailleurs peuvent attendre de ces prêts?
Ben, les travailleurs, ce qu'ils doivent attendre de ces prêts, c'est la relance effective donc, de l'entreprise. Grâce donc aux prêts, nous allons pouvoir réhabiliter l'outil de production. Une fois que l'outil de production est réhabilité, nous restons, si vous voulez, la capacité de production. En restaurant la capacité de production, nous sommes en mesure donc de générer des recettes suffisantes pour faire face à toutes les obligations de l'entreprise.
Alors, nous avons également en ligne Dieudonné Kabamba, qui est le vice-président de la délégation syndicale. Madame, restez en ligne avec nous. Il est temps pour nous de poser la question à Dieudonné Kabamba. Vous êtes vice-président de la délégation syndicale. Bonjour. Alors, monsieur Dieudonné, vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, monsieur Dieudonné, vous êtes avec nous.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez été associé dans toutes ces négociations?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Dieudonné. Est-ce que vous avez été, disons, pour le compte des travailleurs, été associé à toutes ces négociations? Voilà, donc, on a été coupé avec Dieudonné. Nous revenons à vous, Christine Toussé. Vous êtes, Dieudonné Kabamba, vous êtes avec nous? Monsieur Dieudonné, vous êtes avec nous? Et voilà,
c'est bon. Je suis avec vous, mais avec beaucoup de difficultés.
Bah alors, pouvez-vous vous déplacer un tout petit peu ou légèrement pour nous permettre d'avoir une communication très fluide, hein? Mais voilà, alors, Dieudonné, vous nous suivez?
Bon, je vous capte avec retard.
Bah alors, c'est normal, c'est par rapport à la distance. Bah alors, dites-nous, est-ce que vous avez été associé à cette négociation de la signature de ce protocole d'accord entre la MIBA et les deux banques publiques sud-africaines? Mais voilà, décidément.
Oui, nous avons été associés, nous avons suivi, nous avons comment la signature du protocole a été faite.
Mais voilà, vous sortez vraiment. Bon,
je sais que les autorités parlent de la priorité zéro, c'est les milliers et l'outil de production. Je sais que c'est bien vrai. Mais je crois que moi, en tant que représentant des travailleurs, conscient de tous les efforts qu'ils ont fournis pour relancer la MIBA, d'une part, c'est les autorités gouvernementales, et d'autre part, les autorités de la MIBA, en tout cas, j'en suis conscient et je les félicite tous, mais je pense...
Mais voilà, monsieur Dieudonné. voilà, on a des petits problèmes. Donc on comprend que Dieudonné Kabamba est de même avis que ceux-là qui ont décidé de cette signature de cet accord. Mais il reste encore quelque quoi, que je voulais juste nous les dire. Mais voilà, donc nous allons revenir à Madame Christine Toussé, qui est la DGA de la MIBA, qui nous parlait d'ailleurs de priorités qui seront exécutées d'ailleurs par rapport à ce prêt. Nous vous invitons à réagir, et donc en composant le 091 070 2050.
Una frontonoia tremendo, se ne vai da nuovo, oltre ad ampliare, come lei sa battaglia, se si lascia le sbrave e si, poi da non si amore, e più di più di rami, posso accettare i giardi, il mondo a tanti, senza le sue carianti, e di vari danti, affrettare i giardi, come di danti, e di vari danti, fai già danti, amico.
Et voilà, nous avons à nouveau en ligne Christine Toussé, ADGA de la MIBA. Madame Christine, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Oui, parce qu'on s'était coupé là.
Oui, la communication a été très mauvaise aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe.
Et surtout quand Dieudonné Kabamba, vice-président de la délégation syndicale, parlait.
Je n'ai pas suivi, d'ailleurs, voilà. Vous pouvez résumer. Hein.
Bah, ça s'est coupé également, parce que là, on va le récupérer, mais juste un petit résumé. Il a salué de deux mains l'action menée par les autorités de la MIBA, ainsi que ses efforts menés par le gouvernement pour obtenir ces protocoles d'accord. Et là, en outre, insister sur les priorités, il est de même avis que vous, que ce soit l'outil des productions qui puisse être la priorité pour peut-être donner des moyens de la politique à l'entreprise pour aider tant soit peu les travailleurs. Mais il insiste également en disant que la question sur les salaires, la question sur le bien-être des travailleurs doit être très 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 bien étudiée pour ne pas créer de frustrations, pour ne pas créer d'autres problèmes. Comment réagissez-vous par rapport à ça?
Bon, par rapport à ça, bon, il y a un accord hein, qui a été signé entre nous et la délégation syndicale. Donc, c'est-à-dire que dès que l'entreprise est en mesure de générer des cash flows suffisants, donc pour permettre donc les remboursements, si vous voulez, les paiements des arriérés, des salaires, donc ça sera fait. Mais pour l'instant, donc tout le monde s'accorde qu'il convient d'abord donc de relancer l'entreprise, de restaurer, comme je ne peux plus le dire, la capacité oui. des producteurs.
Oui, madame, est-ce que vous pensez que dans deux ans de délai de grâce là, la MIBA sera à même de pouvoir réellement dégager ses cash flows?
Bon, là, c'est des études. Dans deux ans, nous allons dégager un cash flow qui va permettre en premier lieu les remboursements du prêt. Les remboursements du prêt. Mais si on parvient à générer des recettes donc suffisantes qui nous permettent de faire face en même temps au service de l'endettement et aussi également donc au remboursement des arriérés de salaire, ça sera fait. Mais dans un premier temps, la priorité sera accordée au remboursement de la dette et donc toutes les autres créances viennent donc sont subordonnées, si vous voulez, au remboursement du prêt IDC, mais avec priorité accordée aux créances du personnel qui sont les créances privilégiées.
Oui, alors, madame, bien avant ce prêt, la MIBA produisait quand même. Dernièrement, elle a vendu deux fois les diamants au tender. À quoi cela a-t-il servi?
Bon, il faut d'abord comprendre que la MIBA fonctionne avec des avances sur produits qu'elle reçoit de la BCDC. Donc, c'est-à-dire que durant toute l'année, hein, nous fonctionnons comme les tenders, je prendrai l'exemple du tender du mois de mai. D'août jusqu'au mois de mai, nous avions fonctionné avec des avances que nous avons reçues de la BCDC. Ça veut dire qu'au moment, et ces avances, nous les recevons contre dépôt des colis de diamants dans les coffres de la BCDC.
Ça veut dire qu'au moment où nous réalisons la vente, la première chose, c'est évidemment, c'est tout naturel de rembourser d'abord les avances reçues de la BCDC. Ce n'est que les soldes disponibles qui peut effectivement, qui peut alors être affecté donc aux besoins de la société. Alors, dans les cas d'espèce, vous me posez la question, ça a servi à quoi? Ça a servi, bon, les soldes disponibles n'ont pas dépassé 2 millions et ces montants ont été donc affectés donc, entre le personnel et les besoins de l'exploitation.
Alors, donc, si je comprends bien, dans ce deux ans de délai de grâce, si l'entreprise arrivait à dégager les cash flows, ça va servir au remboursement de ses prêts. Au cas où il n'y a pas de recettes suffisantes, disons, les travailleurs pourront encore, disons, mettre leur mal à patience, attendre peut-être la troisième année.
Non, il ne faut pas... Enfin, ce n'est
donc,
pas
une curiosité, hein.
C'est comme vous le dites. Donc,
non, parce que dans deux ans, vous serez
dans le pays. Dès qu'on s'engage dans les programmes de redressement, nous serons en mesure, dès que nous avons restauré notre capacité de production, nous commencerons, il n'y aura plus à ce moment-là des problèmes de retard de paye de salaire. Les agents seront payés. Le modèle financier, comme je vous disais tout à l'heure, a pris en compte toutes les charges, y compris les charges du personnel. Donc, avant même les délais de grâce, nous serons en mesure donc de faire face à toutes nos charges, y compris les charges du personnel. C'est la question des arriérés, des salaires qui est renvoyée, si vous voulez, dans les longs termes pour attendre le moment où nous serons, où le cash flow donc pourra nous permettre donc à les apurer progressivement.
Oui, alors nous avons nous Dieudonné Kabamba, vice-président de la délégation syndicale. Monsieur Dieudonné, vous êtes à nouveau avec nous. Voilà, Monsieur Dieudonné.
Oui.
Alors, dites-nous, avant qu'on soit coupé, là, vous nous parlez de votre participation à cette négociation qui a accouché de cette signature de protocole d'accord. Est-ce que vous avez quelques préoccupations, vous, en tant que représentant des travailleurs?
Oui, merci beaucoup pour la question. La première préoccupation, elle est liée à la médiatisation de tout ce qui s'est fait à la MIBA. La presse fait un effort pour s'intéresser à ce qui se passe à la MIBA, mais ça crée trop de problèmes au milieu des travailleurs. Il n'y a pas longtemps, on a évalué le diamant. Après cette évaluation, toutes les presses ont dit que la MIBA venait de percevoir 7 500 dollars. À part les quelques travailleurs qui sont logés, il y en a qui sont locataires. Ils ont eu des problèmes sérieux avec leurs bailleurs. Il y en a qui ont été butés à la porte, soit disant que la société venait d'encaisser 7 500 dollars. Aujourd'hui, c'est la signature du protocole d'accord. Cela n'implique pas le décaissement d'argent. Mais c'est partout dans la ville où l'on dit qu'on a donné à la MIBA 120 millions de dollars. C'est ainsi que moi, je voudrais proposer à la presse de bien vouloir avoir de réserves quant à ce que la MIBA est en train de faire, même s'il faut médiatiser, mais dire clairement ce qui se passe. Vous suivez là-bas, on a signé un protocole d'accord pour 120 millions, mais ça va venir dans les pires. Et dans la ville, c'est autre chose qui se raconte. Et même quand vous suivez les autorités, quand elles parlent, c'est-à-dire la priorité, ce sont les engins. Les arriérés sont relégués au second plan. Ça, je pense que nous en sommes conscients. Mais assurer ne fût-ce que la paye régulière, au moins le mois.
Si, Madame la DGA a insisté pour dire qu'effectivement...
Au moins le mois, ça apaiserait quand même les tensions, parce que les travailleurs ont enduré. Et puis dans tout ça, même le gouvernement, même les autorités MIBA, ils doivent tenir compte de l'emplacement de la MIBA. C'est une ville enclavée, où tout coûte cher. Donc je crois qu'à ce sujet... j'interpelle d'abord la presse pour la médiatisation qui n'est pas du tout juste, et aux autorités de tenir compte des deux aspects que je viens d'ajouter là.
Madame Toussé Christine, nous venons de suivre le délégué du syndicat. Est-ce que les salaires seront payés régulièrement?
Bon, je vous ai répondu, pour que nous soyons en mesure de payer les salaires régulièrement, nous devons d'abord être en mesure donc de produire donc une production donc qui nous permet de prendre donc à charge les salaires de façon régulière. Actuellement, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Actuellement, nous produisons 100 000 terras, lesquels 100 000 terras représentent un sixième de la production normale. Et si vous voulez, en termes d'avance sur le produit que nous recevons de la BCDC, les 100 000 terras donc, sont évalués à plus ou moins 1 600 000. Or, que si vous voulez, donc, l'impact de la masse salariale de l'AMIBA est également de 1 600 000.
Mm-hmm.
Ça veut dire que si nous, à la date d'aujourd'hui, si nous affectons donc toutes les recettes disponibles à la paye des salaires, nous bloquons le fonctionnement d'un autre côté.
Oui, mais...
Ce n'est pas possible. C'est pour ça que jusqu'à présent, on a essayé chaque fois de concilier à la fois les besoins de la paye et les besoins de fonctionnement de la société. Et avec les niveaux actuels de la production, donc nous ne sommes pas en mesure de payer un net à payer. C'est ainsi que vous avez vu que de janvier jusqu'en juin, chaque fois, on a payé 50% au personnel. Et les restes, les soldes, il fallait bien qu'on puisse acheter tout ce qui est intra nécessaire pour pouvoir produire.
Oui, c'est bien bon, madame.
Pour payer les salaires régulièrement, nous devons produire au moins. Allô?
Oui, on vous entend.
Ah, c'est parce qu'en même temps ici, bon, il y a un bruit au téléphone.
Oui.
Bon, pour pouvoir payer les salaires, nous devons donc parvenir à atteindre donc un niveau d'au moins 250 000
terras. Mais en attendant, les agents, comment ils vont survivre, madame? Mais il n'y aura même pas de
l'effort. Ce sont les efforts que nous sommes en train de mener. Nous disons, ils ont fait preuve de beaucoup de qualités, de patience et de responsabilité. Pour l'instant, les perspectives sont bonnes. Nous venons de signer donc un contrat de prêt qui va être libéré.
Mais il n'y a pas encore de dépassement. Il n'y a pas encore
de dépassement.
Il n'y a pas encore de dépassement.
Ils ne vont pas baisser les bras. Nous avons
possible de les rehausser jusqu'à 200 000 pour permettre d'améliorer. Si vous voulez, les revenus salariales.
Oui, mais madame, ça peut durer combien de temps comme ça?
Allô?
Oui.
Ça peut durer combien de temps? Cette situation peut durer combien de temps?
La situation peut durer combien de temps? Mais ensemble, nous allons en tout cas déployer des efforts pour minimiser ce temps. C'est ce que je peux vous dire.
Ouais. Mais madame, 140 millions de dollars, c'est quand même une grande bouffée d'oxygène. Avec ce financement, vous pensez que l'AMIBA pourra être de nouveau ce qu'elle est, elle représentait hier?
Ben si, je vous l'affirme donc sans embâche, donc avec ces montants de 140 millions, nous allons pouvoir relancer l'entreprise, l'entreprise va pouvoir jouer son rôle les rôles moteurs qu'elle jouait par le passé.
Mais par le passé, elle fonctionnait avec un montant de combien?
Par le passé, bon, comme je vous dis, les niveaux de la production étaient au moins à 600 000 carats. 600 000 carats, et bon, en termes de recettes, on était au-delà des 12 millions par mois. Hein.
Oui, madame, parce que là, il y a un protocole d'accord, mais d'aucuns aimeraient savoir le décaissement interviendra quand exactement. Faudra-t-il attendre que toutes les conditions posées par les fournisseurs soient remplies?
Bon, nous sommes en train de tourner en rond. C'est la même question qui revient à plusieurs reprises.
Ah ben oui.
C'est la même question qui revient à plusieurs reprises. Je vous ai dit que c'est une pratique courante en la matière. Le décaissement intervient quand toutes les conditions sont réunies. Et on vous a dit aussi que sur les 14 conditions qui fallait remplir, il y en a déjà 9, du moins du côté de l'AMIBA, qui ont été remplies. Les restes sont en cours et vont être donc satisfaites dans les meilleurs délais.
Mais qu'est-ce qui bloque, madame?
Il n'y a pas de raison, je me répète, il n'y a pas de raison si on a pu donc conclure le contrat en moins d'une année, il n'y a pas de raison pour que la durée pour permettre le décaissement donc soit
en cours. Oui, madame, on veut bien, mais la position du fournisseur, est-ce que le fournisseur au jour d'aujourd'hui est-il prêt par rapport aux 9 conditions déjà remplies à pouvoir décaisser ce montant?
Ben, je vais vous répondre que non, parce que les décaissements, les conditions, il n'y en a pas que seulement de la part de l'AMIBA, même du côté les conditions à remplir, donc c'est en même temps du côté de l'AMIBA et ainsi que de partenaires financiers.
Mm-hmm.
Donc toutes les conditions, je vous dis que tout le monde est en train d'y travailler pour le moment, pour que donc dans un délai le plus possible pour que ces conditions donc soient.
Mais au niveau de l'AMIBA, qu'est-ce qui bloque, madame?
On y va, ce que je vous disais, au niveau de la MIBA, il n'y a
rien qui bloque.
Il n'y a rien qui bloque.
Si vous voulez, bon, posez-moi plutôt la question, quelles sont les conditions qui restent encore à
non, je savais qu'il
reste cinq conditions.
Les conditions qui restent encore à remplir, donc on nous demande de certifier les réserves de l'entreprise par un expert indépendant. La MIBA a engagé un expert canadien, ce travail est actuellement en cours. Quelles conditions qui restent encore à remplir?
Alors,
on demande que la dette de l'État sur la MIBA, qui est évaluée à plus ou moins 47 millions, passe dans les longs termes. Donc, il faut rééchelonner cette dette, que ça passe dans les longs termes. Ce travail est actuellement en cours au niveau du ministère des Finances et nous ne pensons pas que ça puisse poser problème dans la mesure que le prêt a été négocié à l'initiative du gouvernement par l'entremise du ministère du portefeuille. Qu'est-ce qu'il reste encore comme condition? Les bailleurs de fonds ont exigé une attestation de la Banque centrale dans laquelle donc, la Banque centrale donc, doit donc, accepter que les transferts de fonds qui seront effectués donc ultérieurement dans les cadres du remboursement des prêts, c'est fait sans entrave. Nous avons déjà entrepris des négociations et c'est une condition qui ne va pas poser de problème non plus parce que déjà la MIBA a l'accord de la Banque centrale pour détenir des comptes à l'extérieur et pour opérer des dépenses à l'extérieur.
Voilà,
donc il n'y a pas de raison.
Oui, voilà, donc toutes ces conditions qui restent.
Le plus, c'est donc s'opposer au remboursement du crédit.
Oui,
alors, qu'est-ce qui reste encore? On nous demande donc, il faut un apport en cash, parce que comme on l'a dit, les investissements, le prêt va servir à financer uniquement les investissements. Donc il faut un apport en cash d'au moins 30 millions pour financer les fonds de roulement. À ce niveau-là aussi, il y a déjà les montants de 30 millions sont déjà en voie d'être mobilisés.
Alors, donc
voilà.
Si on peut dire.
Impossible donc à réaliser qu'ils puissent donc bloquer la libération du prêt.
Voilà, donc si je comprends bien, c'est pratiquement l'avis qui est partagé par ceux-là qui nous suivent. Les conditions qui restent, ça ne peut pas poser de problème, ça ne peut même pas aller au-delà de 2 ou 3 mois, donc le décaissement, nous pouvons l'obtenir dans les jours à venir. Dans une semaine ou 2 semaines?
Pas dans une semaine, 2 semaines. Mais disons pas. Enfin, je préfère qu'on ne détermine pas des délais. Je viens de vous lire les conditions, de vous rappeler.
Mais les conditions sont tellement. C'est tellement simple que ça.
Non, mais je vous ai dit aussi qu'il y a d'autres conditions qui doivent être remplies par les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, à leur niveau, ils veulent donc que le prêt soit assuré par leur organisme donc d'assurance. Et
voilà.
Le travail est en cours aussi.
Bon, voilà, madame, par rapport
à ce que vous dites, il n'y a plus de conditions qui peuvent.
Voilà, qui peuvent le problème. Alors, par rapport.
Qui sont des nature à la libération du prêt et que ces conditions seront, nous nous déployons, donc je ne fais que me répéter.
Oui, d'ailleurs, on salue vos efforts.
Accompli dans un délai le plus court possible.
Oui, on salue vos efforts, mais par rapport à la volonté ou à la bonne foi de ces deux banques publiques, est-ce que, madame, vous pouvez nous confirmer qu'effectivement, les choses vont aller vite, même du côté des fournisseurs?
Mais bien sûr, les choses, je vous dirais que les choses sont allées. Si vous pouvez prendre l'information, ce n'est pas en une année, nous sommes ici au Congo, nous devons négocier un emprunt à l'extérieur du pays. Eh bien, dans la plupart des cas, vous pouvez vérifier, ce sont des négociations qui prennent des très très longs délais. Et ici, si on en est arrivé donc à l'aboutissement des négociations pour obtenir un accord à moins d'une année, on a commencé en janvier et on vient de signer. Donc ça veut dire qu'il y avait la bonne volonté de la part de toutes les parties, y compris les partenaires financiers.
Madame Toussé, je viens de vous suivre, je vous ai suivi religieusement. Donc, en d'autres termes, vous voulez dire que les bailleurs de fonds veulent aussi peut-être qu'ils soient sûrs que les fonds soient utilisés à bon escient.
Bon, c'est pas ça que je veux dire. J'ai voulu dire que les bailleurs de fonds, en tout cas, ont accompagné la MIBA pour que le prêt soit, donc nous accompagne d'abord pour que les prêts donc soient libérés le plus vite possible. Mm-hmm. En ce qui concerne, c'est tout à fait normal que les bailleurs de fonds puissent avoir la préoccupation de s'assurer que les prêts donc sont utilisés pour les fins pour lesquelles donc ils ont été octroyés.
Mm-hmm. Mais nous avons une réaction dans ce studio, madame, si vous permettez. Il y a une dame qui nous écrit de Mbujimayi, et elle dit, quelle est la suite de l'affaire vol de diamants à la MIBA? On a l'impression que les coupables courent encore les rues, alors que les innocents croupissent en prison.
D'abord, moi, à cette question, je vous répondrai ceci. Tous les coupables identifiés, du moins au niveau de l'entreprise, ont subi la rigueur du règlement de l'entreprise. Mm-hmm. Tous ceux qui ont été identifiés comme coupables, donc ils ont été sortis de l'effectif, ils ont été mis à la disposition de la justice. Alors, si on parvient à établir qu'il y a encore d'autres donc coupables, qui sont quelque part, qu'on nous les prouve, ils vont subir les mêmes sorts que ceux qui se trouvent actuellement donc sous les verrous.
Christine Toussaint, vous êtes la DGA de la MIBA, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Hein.
Ok, merci, à la prochaine.
Voilà, Dieudonné Kabamba, nous allons peut-être, dire un dernier mot, mais bon, voilà, on peut dire qu'il n'est plus là, il n'est plus en ligne. Nous remercions tous les auditeurs qui ont réagi par rapport à ce sujet sur la violence de la MIBA. On retient une chose, il y a quelques conditions qui restent encore à remplir du côté de la MIBA ainsi que du côté du fournisseur. Voilà, donc, il faut noter qu'il y a un prêt qui est accordé à la MIBA pour la relance de ses activités. Nous allons dans quelques instants changer de registre, on va quitter le registre financier pour nous rendre à Bandundouville où nous allons parler des conditions de vie des voyageurs en transit à Bandundouville.